Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Si tu veux trouver un match, me fourrer, tu me le dis direct.
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Le numéro 1 mondial, l'Espagnol, Rafael Nadal.
Les plus grands champions de tennis comme Borg ou Villas sont à leur côté des éminences grises qui leur servent à la fois de manager, d'entraîneur. Eh bien, Yannick Noah, le champion français, vient lui aussi de décider de s'adjoindre à un entraîneur particulier, l'ancien tennisman français Hagelauer. Alain Teller a demandé à Yannick Noah les raisons de cette décision.
Parce que je me suis aperçu que lors des tournois et lors de mes périodes d'entraînement, je perdais beaucoup de temps et il est toujours difficile lorsqu'on s'entraîne avec un autre joueur de s'occuper de ses propres problèmes. Lorsqu'on a un entraîneur, c'est beaucoup plus facile, on s'entraîne, on est beaucoup plus concentré sur nos problèmes personnels et c'est ce qui explique le choix de Patrick.
Le rôle d'un coach n'est absolument pas le rôle d'un gourou, d'un mentor.
Éminence grise.
Non, pas du tout non plus. Non,
les porteurs de raquettes.
Non plus, surtout pas.
Et en un mot commençant, union libre ou mariage de raison?
Union libre. Union libre de toute façon.
Salut, c'est Max et bienvenue pour la deuxième partie de l'épisode avec Patrice Hagelauer. Chaque mardi, on vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro. Alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Pour ce 15e épisode, Hagel poursuit son récit victorieux aux côtés d'Yannick Noah à Roland-Garros en 1983. Il nous offre un voyage dans le temps pour ressentir et visualiser ce que ses compères de l'époque ont vécu et surtout l'exploit qu'ils ont réalisé. Au gré d'anecdotes racontées avec autant de passion et d'étoiles dans les yeux que si elles avaient été vécues la veille, Patrice nous régale et retranscrit avec générosité des passages forts de leur collaboration donc avec Yannick. Il nous confie également, à la fin de cette deuxième partie, sa vision d'entraîneur sur le jeu et la personnalité de plusieurs piliers du tennis français, que sont Henri Lecomte, Guy Forget, Santoro, Delettre, Tulane, Pioline, Arnaud Clément, Seb Grosjean, Polo Mathieu, Di Pasquale ou Escudé. Hagel est d'une générosité sans borne, si bien qu'il nous offre même une troisième et dernière partie semaine prochaine, mais avec un tel enthousiasme et une telle richesse dans le discours, ça n'est que du bonheur. Avant de laisser place à l'épisode, si notre travail te plaît, tu peux devenir une légende dans notre cœur en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et un commentaire sympa. Il nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et à tout donner chaque semaine. L'entretien est à retrouver sur la chaîne YouTube, pense également à t'abonner. Place à notre 15e épisode, bonne découverte et bonne écoute à tous.
Est-ce que tu penses que ça peut être une clé pour un Français aujourd'hui, une manière de s'inspirer, de gagner Roland? Qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire, quoi?
Alors, il y a des, dans la préparation physique, il y a des phases.
Qui lui avait fait le programme à cette époque-là?
Moi, j'avais beaucoup travaillé avec Yannick, puisque moi, j'avais cette formation de prof d'éducation physique. Donc, j'avais beaucoup travaillé moi-même avec Yannick. Et à cette époque-là, je dirais c'est peut-être ce qui a le plus évolué. C'est-à-dire, quand je vois, moi, le travail que j'ai fait à Yannick, je me dis, j'en ai fait des conneries. J'en ai fait des conneries avec Yannick. On se rend compte, justement, que des fois, on n'avait pas les moyens de mesurer les efforts qu'on demandait aux joueurs, que ce soit sur le plan cardio, sur le plan du poids, des haltères qu'on pouvait utiliser, ou tout ça, c'était, que ce soit les préparateurs physiques de l'époque, ou les, voilà, comme j'étais ou autre. J'aimais bien aussi faire intervenir d'autres, et notamment Jean-Claude. Pourquoi Jean-Claude? Parce que Jean-Claude s'occupait d'un sauteur à la perche qui s'appelait Tracanelli, qui avait été champion d'Europe, Tracanelli. Et C'était ma formation plus à l'INS où je voyais tous les gars et c'était fantastique parce que en cours, on nous disait des choses et je le voyais après sur les athlètes quand ils travaillaient le sprint. Et j'allais les voir parce que j'adorais voir comment ils travaillaient et je discutais avec les entraîneurs. Et je pense que ce qui était très important, c'était à un moment donné de le faire côtoyer ces athlètes de haut niveau, champions d'Europe de saut à la perche. Puis on avait dans notre équipe d'entraîneurs, on avait Frédéric Roche, qui était lui aussi, il avait été, faisait 7800 points ou 7600 points, je ne sais plus, au décathlon. C'était un type incroyable, décathlon aussi, donc il avait une vision des choses. Et donc Fred avait pu apporter certaines choses, mais dans la période qui est, disons, les 6 semaines qui précèdent un tournoi du Grand Chelem, où il y a 3 gros tournois, il fallait commencer à penser plus récupération entre les tournois et essayer de ne pas trop casser le joueur dans la période qui précédait. Et sur la période qui a été les 10 jours de préparation intensive, c'était que des exercices physiques sur le terrain. Et derrière, c'était de la course avec ses chiens, mais c'était du footing, c'était donc pour travailler un peu le côté cardiaque. Donc c'était, mais je faisais pas ni halter ni tout ça, je faisais un peu d'abdos, un peu de dorsaux, des trucs comme ça, mais c'était on faisait rien de qui pouvait engendrer le moindre risque. Voilà, hein, on faisait rien d'autre. Les sprints, on les faisait, c'était sur le terrain, hein, quand je faisais cavaler après toutes les balles, les smash et autres, on le faisait suffisamment. Et donc, il y avait sieste, oui, il faisait une sieste obligatoire, il se couchait tôt, donc il y avait récupération. Et puis, quand je voyais qu'il y avait une journée qui était un peu trop dure, troisième jour par exemple, ben, on ne venait pas le matin, donc le matin, il faisait une grasse matinée, on faisait que l'après-midi, on faisait des exercices un peu différents. Voilà, et puis sur la fin, j'avais fait venir un ou deux sparring partners pour faire des matchs d'entraînement ou en tout cas des sets d'entraînement pour mettre un peu en pratique ce qu'on avait travaillé, quoi. Voilà un peu les idées. C'était, puisque Yannick, c'était quelqu'un qui est vraiment, il en imposait par son physique. C'était un espèce de bulldozer. Quand il jouait, c'est un attaquant hyper agressif et il fallait qu'en permanence, qu'il soit dans une, voilà, qui mette la pression sur l'autre constamment, qui l'empêche de jouer. Fallait pas, quand à certains moments, je le voyais quand il jouait Villas ou qu'il jouait contre Lindel et qu'il se mettait à rester au fond de court, à renvoyer la balle, à jouer. Bien sûr qu'il était capable de tenir parce que physiquement, il avait la qualité pour, mais c'était pas son jeu. Lui, il fallait qu'il bouscule l'autre. Il fallait qu'il l'agresse en permanence. Et donc, il fallait qu'il ait des qualités physiques d'explosivité. Donc, il fallait qu'il monte au filet et qu'au filet, il soit impassable. Moi, j'avais dit, quand tu montes au filet, personne ne doit te passer. On ne doit pas te passer. Donc, en hauteur, tu sautes, t'es un géant. Et puis, à droite ou à gauche, tu ne te fais jamais passer. Donc, c'était quelqu'un, il fallait qu'il soit complètement armé pour être un, voilà, qu'il soit agressif. Avec des moments qui sont les moments de relâchement entre les points où il fallait en même temps, parce qu'il était déjà un peu adepte du yoga. Il y avait Arthur Haas qui lui parlait du yoga, donc il puisse se calmer pour faire baisser un petit peu la température et garder sa lucidité, bien évidemment. Donc il y avait tout ça. Ce que je vous ai pas dit, mais qui est important pour la suite aussi, c'est que il y avait une compétition que moi j'avais, qu'il était un peu obligé de faire, c'était la Coupe des Nations à l'époque. Ouais. C'est un peu comme la TP Cup aujourd'hui. Cette Coupe des Nations, la France était représentée et c'était moitié la Fédération internationale et moitié IMG qui faisait ça. Et Yannick, au début, avait dit qu'il le ferait, mais il avait pas, on peut pas dire qu'il ait très envie de le faire. Donc, il y va, il joue le premier jour. Et Yannick avait une petite amie à l'époque, là, qui s'appelait Kim, qui était super jolie, un mannequin incroyable et tout le truc, qui était très amoureux. Pour une raison X ou Y, moi, j'étais pas allé à cette coupe-là. J'aimais pas cette compétition et j'étais pas allé là-bas. Et donc, je savais pas trop ce qui se passait. Je lui ai dit, écoute, tu vas là-bas et puis, joue tes matchs et puis voilà, bon. Il était rentré. Et le lendemain, ben, il était parvenu. Et ça fait une histoire pas possible. Et donc, la Fédération internationale, c'était moitié-moitié, parce que Yannick était quelqu'un qui n'avait jamais eu ni d'amende, ni de problème quelconque, de discipline, tout le truc. Donc, ils avaient dit, ça, on ne peut pas laisser passer. Mais il y avait moitié-moitié. Et celui qui a pris la décision finale, c'était le président qui a été obligé. Et le président de la Fédération internationale, c'était Philippe Chatrier, qui était en même temps président de la Fédération française. Parce qu'il ne voulait pas être considéré comme tant quelqu'un qui voulait favoriser un Français qui avait fait la connerie de quitter cette compétition-là. Donc Yannick a été suspendu 2 mois. Et donc Yannick est rentré.
$1 000 d'amende, ouais.
Ouais. Et donc Yannick est rentré de cette compétition-là. Il était, mais hyper énervé. Donc, ouais. Moi, je lui ai dit, écoute, Yann, maintenant, cette compétition, c'est peut-être derrière, je dirais, peut-être un petit peu ma faute, parce que moi, je n'ai jamais pris cette compétition au sérieux. Donc, il n'avait peut-être pas pris au sérieux non plus, mais c'était un peu n'importe quoi, il faut dire, c'est vrai. Mais, bon, il s'était engagé, il aurait dû le faire. Mais il n'avait pas fait. Et je lui ai dit, écoute, à la limite, tant mieux. Mais il ne savait pas qu'il avait été suspendu encore. Hein. Tant mieux, ça va nous donner un peu plus de temps pour se préparer pour Roland-Garros. D'accord. Donc, on avait pu… Mais ça a été après, quand il a appris que ça a été très compliqué pour lui parce que bah, il gagne. Donc, gagne Roland-Garros, formidable. On fait une semaine, c'est la fête. Pas vraiment incroyable, le rêve de sa vie, des parents, tout le truc. Super, mais il ne peut pas jouer. Il ne peut plus jouer pendant 2 mois. Et là, ouais. Alors que Chatrier avait toujours fait tout pour lui et tout le truc, il adorait Chatrier, là, il dit, il m'a trahi tout ça. Et là, il me dit, ben écoute, maintenant, moi, je ne veux plus bosser avec la fédération. Moi, je veux continuer à bosser avec toi, mais je veux que ce soit plus à la fédé. Donc, que ce soit en dehors de la fédération. Et moi, je me suis, senti piégé, parce que je me dis, c'est pas possible que je lâche Yannick maintenant. Je dis, c'est pas possible. On a fait tout ce chemin-là. Pourquoi? Gagne Roland-Garros, je peux pas quitter Yann, quoi. C'est pas possible. Et au miracle, dans les 10-15 jours qui ont suivi, j'ai un Anglais qui prend contact avec mon frère pour une raison X ou Y, en lui disant, et par un autre ami qui travaillait dans une boîte, bon, peu importe, qui voulait créer un centre d'entraînement à l'américaine, comme ce qu'il y avait chez Hopman à l'époque, et qui voulait que j'en prenne la direction.
Okay.
Donc, un rendez-vous est pris. Je découvre quelqu'un qui me dit, moi, je veux faire un grand camp de tennis, je veux faire quelque chose qui… Il n'y en a pas en Europe comme ça. Il n'y avait que le camp Barthès, mais qui n'était pas spécialisé dans le haut niveau, quoi, avec un tennis étude privé, avec tout ça. Il n'avait pas ça, Pierre. Donc, je me dis, c'est une aventure extraordinaire, ce qu'il me propose. Et je discute avec lui et je lui dis, mais je ne veux pas laisser Yannick. Moi, je veux être directeur, mettre en place les structures, mais je veux que sur 25 semaines de l'année, je veux être sur Yannick. Donc, j'appelle Yann et je lui dis, Yann, voilà ce qui m'est proposé. Est-ce que ça te va? Il me dit, c'est top, c'est super, incroyable. Moi, j'irai m'entraîner là-bas. On s'entraînera là-bas, je partirai de là-bas et tout le truc et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a construit le Sofia Country Club, donc qui a ouvert en 84 par là. Et pendant 6 ans, ben, on s'est entraîné là-bas, mais j'avais continué à être quand même sur la Coupe Davis.
Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux me dire qu'on suive une chronologie? Parce que pour toi, ça paraît naturel de dire, et là, Yannick a gagné Roland. Mais au moment où ça se produit, qu'est-ce que tu ressens quand la balle de match est jouée, quand le titre est remporté? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion?
Écoute, il se passe quelque chose d'incroyable. Si tu veux, déjà, tout au long du tournoi, hein, ça a été assez, assez incroyable tout ce qui s'est passé. Bon, je te la fais brève, là, je n'ai pas tout raconté, si tu veux, je te raconte. Bon,
dans les moindres détails, mais avoir un petit film.
Il y a eu, si tu veux, il y a eu Un jour où ça a été un peu compliqué, ça a été quand il a battu Alexander, où il y a la conférence de presse, et il se lève après la conférence de presse et il me dit « Putain, j'ai une douleur au bas du dos, j'ai un truc, putain, j'ai mal, ça me fait chier. » Et là, c'était le docteur Cousteau qui était médecin de l'équipe de France, et je lui dis « Écoute, je vais en parler à Cousteau. » Cousteau était un cardiologue. Donc Cousteau me dit « Écoute, je vais en parler au plus grand spécialiste du dos de l'époque. » Je n'ai pas son nom là immédiatement, ça me reviendrait. D'habitude, il faut 2 mois pour avoir un rendez-vous et tout le truc, mais je vais lui dire, je vais essayer de venir te voir, c'est possible. Donc, après cette conférence de presse, Yannick est avec le kiné qui s'occupait de Yannick, Robert Laurence, hein, qui est un peu comme c'est le parrain de mes filles, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui était kiné de l'équipe de France, tout ça. Il me dit, écoute, ça serait super si ce professeur pouvait venir voir Yannick, tout ça. Ce gars arrive avec, donc, je sais pas, 2-3 heures après, il voit Yannick et il le manipule et il lui fait, je sais pas quoi, il lui fait une piqûre dans le dos, je sais pas ce qu'il lui fait exactement. Le lendemain, Yannick arrive, on s'entraînait toujours un jour sur deux, le jour où il y avait rien, on était au Racing. Et Yannick arrive au Racing et je lui dis commenter, il me dit, écoute, ben, ça a l'air d'aller, il me dit, ben, on ne va pas trop forcer aujourd'hui. Le médecin m'a dit de ne pas trop forcer aujourd'hui, mais ça va, je ne sens rien. Donc, il me dit, je vais simplement, on va faire léger, mais ça va. Et puis, le match d'après, je crois que c'est là qu'il a joué Lendl. Plus entendu parler de son truc. Mais j'ai eu un peu les chocottes à ce moment-là. Ouais. Tant quoi, les matchs se sont déroulés, si tu veux, un peu voilà, dans l'esprit de ce qu'on avait un peu imaginé, c'est-à-dire son côté vraiment agressif, son côté… voilà. Après, il y a eu, si tu veux, cette demi-finale contre Christophe Roger-Vasselin, qui ne m'inquiétait pas trop parce qu'il l'avait toujours battu, puis Christophe n'a pas le jeu, si tu veux, pour vraiment gêner Yannick. En plus, il venait de battre Connors. Donc, si tu veux, c'était pour lui, dans sa tête… On savait que, si tu veux, ça avait un peu explosé, quoi. C'était au maximum, tu vois. Et voilà, il a gagné facilement contre Christophe. Et donc, il était super bien pour jouer la finale contre Villander, quoi. Parce que ben, le match contre Christophe n'avait pas été vraiment trop difficile. Donc, le gars, pleine forme physique. Donc, tout allait bien, si tu veux, pour attaquer ce match-là. Donc, il fait un super match. Beaucoup de gens ont dit que s'il avait perdu le tie-break, tu vois, que peut-être derrière, il aurait du mal. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il aurait peut-être eu du mal, si tu veux, sur 2-3 jeux, mais au 5e, je pense que vraiment, par rapport à ses réserves physiques, je pense qu'il aurait été là, tu vois, sur un 5e. Je pense que quand tu passes près, bien sûr que tu prends un coup dans la figure, encore qu'on ne sait jamais quel scénario peut se produire. Donc, après ça, c'est que, voilà, certaines personnes peuvent penser ça, d'autres peuvent penser l'inverse, mais donc, il gagne.
Tu te fous la pression, toi, pour la finale? Tu te mets une grosse pression ou tu arrives à gérer?
La pression, je dirais qu'elle est, forcément là. Mais tu es tellement dans une dynamique, si tu veux, où moi, j'étais dans mon scénario, tu vois, où je sais exactement comment Yannick réagit, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Yannick, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut abreuver de paroles. Il faut lui dire quelques phrases, quelques mots au bon moment, si tu veux, qui vont lui donner confiance, qui vont vraiment amener un plus. Mais vraiment, si tu veux, c'est pas le genre de choses où tu vas lui dire, ben, Villander, on l'avait, je sais pas, il l'avait joué 2 ou 3 fois ou 4 fois ou 5 fois, on connaît son jeu par cœur, il connaît son jeu par cœur, on l'avait analysé, il savait exactement comment il fallait qu'il joue pour battre Villander, donc il n'y avait pas 36 solutions. Donc, tout ça, c'était dans sa tête. Moi, c'était que des paroles, si tu veux, qui étaient des paroles pour essayer de vraiment qu'il se sente bien, qu'il se sente détendu, tu vois, que la pression ne soit pas là. Et puis, lui montrer que, tu sais, dans ces moments-là, que tu as confiance, que tu as totale confiance en lui, quoi. C'est ça qui est important, c'est lui faire sentir qu'il est armé. Il a tous les atouts, si tu veux, pour gagner ce match, parce que c'est ça qui est important. Donc, les choses se sont passées bien, et puis surtout, il a très bien démarré ce match, comme il fallait, tu vois. Moi, j'étais toujours, bien sûr, au premier rang, derrière, et j'étais vigilant sur le fait qu'il fallait toujours être vraiment derrière lui pour qu'il ne tombe pas dans le jeu de l'autre. C'est-à-dire quand tu as un attaquant, quand tu travailles avec un attaquant, c'est toujours toi qui impose le jeu. Donc, il faut que tu empêches l'autre de jouer en réalité. Il faut que tu l'agresses en permanence. Il faut que tu varies le jeu sans arrêt, mais que tu l'agresses. Voilà. Donc, c'était être vigilant là-dessus, tu vois, pour que s'il commençait à y avoir trop d'échanges, bon, une fois ça va, deux fois ça va, mais il ne faut pas, tu vois, s'il commence à perdre un jeu ou un jeu de service à cause de ça, là, tu peux avoir des attitudes, pas forcément des mots, mais des attitudes, tu vois, on avait des gestes, si tu veux, qui démontraient qu'il fallait qu'il agresse davantage, tu vois. Donc, c'était ça. Le but, c'est qu'il soit lui-même. Tu sais, le plus important, moi, dans les conseils que je pouvais donner aux joueurs, c'était de dire aux joueurs, sois toi-même. Parce que tu as des joueurs qui veulent en faire trop, ou bien qui, à certains moments, sont ou paralysés, tout ça, sont plus eux-mêmes du tout. Ils partent, tu vois, dans des styles de jeu ou dans des tactiques qui sont plus, voilà, c'est plus les leurs. Ils sont pris par les émotions, tu vois, ils manquent de lucidité et tout ça. Donc, le coach est là, des fois, pour les remettre un petit peu sur les rails. Mais quand tu vois que ça se passe bien, ben, c'est de l'encouragement, de la félicitation. Ils voient comme le public, tu es là et tu, voilà. Modérément quand même, parce que tu dois pas, toi, t'enflammer comme un fou. Tu dois essayer de rester, tu vois, toujours. Vraiment, tu sais qu'un match n'est jamais fini tant que pas la balle de match, quoi. Donc,
on voit Patrice Agelauer qui s'enflamme tout seul. J'imagine à l'époque.
Ouais. Donc, ça s'est bien passé. Puis après, il a fallu gérer tout ça et je te dis, on s'est retrouvés. Manque de peau. Donc, le centre s'est construit. Donc là, c'était super parce que Yannick venait. Et comme Yannick venait, il y avait bien sûr… Après, j'ai entraîné aussi, si tu veux, dans le même cadre.
Attends, la balle de match, il gagne la balle de match. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu vis le truc?
Ah, la balle de match. La balle de match, il se passe un truc incroyable. Donc, tu es là, tu es debout, c'est fantastique. Et je vois Yannick. Donc, Yannick me regarde, c'est superbe. Et il se tourne et il voit son père qui saute des gradins.
Ouais.
Et il voit son père et il n'en revient pas. Et donc, il est là, il passe de l'autre côté du filet, le père court vers lui. Et ça, c'est une image qui est gravée là, tu vois, de voir Yannick et de voir tout ce que ça représente. Parce que c'est ça, c'est ce que représente, si tu veux, cette accolade entre le papa et Yann. Mais tout ce que ça représente, c'est absolument invraisemblable, tu vois. Et il se serre. Et puis là, après, il lâche son père, il court. Et tu avais, si tu vois, à cette époque-là, tu avais un petit escalier qui montait le long de la présidentielle. Et le petit escalier avait été déployé. Et Yannick vient vers moi, il m'attrape le bras, il me tire. Tu vois, donc je me casse un peu la figure, si tu veux, de l'escalier. Et là, tu vois, il m'attrape et il me dit, on a gagné, Agel. Qu'est-ce que tu peux rêver de plus quand tu es entraîneur, tu vois, quand tu es quelqu'un. Je te disais, la marque de générosité de Yannick, elle est là. C'est pas j'ai gagné, c'est pas j'ai gagné, c'est on a gagné. Et tu sais, toi, en tant qu'entraîneur, que tu as amené à ce grand édifice, mais c'est tout ce que tu as fait. Mais qu'ils viennent et qu'ils te disent ça, ça vaut tout l'or du monde, quoi. Ça vaut, c'est même inestimable. C'est fantastique. Moi, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, quoi. Avec la naissance de mes filles.
Ouais. J'ai lu que son papa s'est cassé le pouce, d'ailleurs, quand il est descendu sur le court.
Ah oui, c'est possible. Mais c'est
le lendemain matin.
Déjà le soir. Déjà, ouais. Cette folie, si tu veux, le terrain qui est envahi, là, les mesures de sécurité, c'est n'importe quoi, il n'y avait pas, tu vois. Tout le monde envahi autour de Yannick, et Yannick était là, il poussait les gens, laissez-moi, il n'arrivait même plus à respirer et tout le truc. Il monte, et là aussi, tu as l'accolade des anciens, de Lacoste, de Borotra, de Cochet. Ils viennent, ils l'embrassent tous. De Marcel Bernard, qui lui remet la coupe, qui était l'ancien, le dernier vainqueur de Roland-Garros. Et ça représente beaucoup, parce que pour Yannick, l'histoire, c'est plus important que tout, quoi. L'histoire que représente Roland Garros, les prix, c'est rien. Les prix, il s'en fout. C'est pas les prix, ça, il ne joue pas pour l'argent. Yannick, il jouait pas pour ça. Yannick, il jouait pour son rêve. Et puis pour l'histoire que ça peut être. Gagner Roland Garros, c'était mythique. C'est comme quand on a gagné la Coupe Davis, là, c'est pareil. En 91, c'était la même chose. C'est l'histoire qui est là derrière. Donc, tu vois,
À quel point tu te réveilles le lendemain matin avec un sentiment d'accomplissement? C'est un rêve pour toi.
D'abord, la nuit. Moi, j'ai rarement passé une nuit comme ça où je savais plus ce que j'avais fait. Je me suis retrouvé dans la piscine à un moment donné, si tu veux, parce que le champagne, je te raconte pas. Moi, je suis arrivé avec ma femme, c'est ma femme qui m'a ramené, certainement, je savais plus. La piscine, il y avait plus de mecs dans la piscine que d'eau. Tout le monde était là, tout le monde gueulait, t'es au milieu d'un espèce de truc, c'était fou. T'avais les gens du village qui étaient là. J'étais chez Yannick, c'est à la campagne, à Nainville. La fête, c'était fou, quoi. Tout le monde était là au milieu de, il y avait les chanteurs du groupe Téléphone qui étaient là, tout le monde chantait, dansait. Je crois qu'il y avait plus de champagne dans la piscine que d'eau, tu vois. C'était un truc de malade. Donc, moi, j'avais jamais été comme ça, dans cet état-là, où je me souviens plus d'autre chose que de, tu vois, les visions dans l'eau, la joie, le truc. Les nerfs, tu sais, tu n'as plus de nerfs, quoi. Tu sais, t'es là. Et donc, le lendemain, je me suis réveillé et tout le truc. Et puis tu te dis, bon, putain, c'est fabuleux ce qui s'est passé. Et puis, tu te dis, putain, c'est incroyable. Tu as vécu un moment d'histoire, quoi. Tu as vécu un moment de folie. Et puis, tu te dis, bon, ben, le mec est fabuleux. Le mec est incroyable. D'avoir pu faire ça, quoi. Tu te dis, c'est fantastique. Parce que non seulement il a gagné Roland, mais il a emmené avec lui 50 millions de personnes. Et puis en même temps, dans la piscine, il y avait tous ses potes, tous ses trucs et tout ça. Mais la France entière aurait pu être là. Yannick, pouvait accueillir tout le monde. Et juste une anecdote. Quand je quitte Roland, après donc, tout ce qui s'est passé, les conférences de presse, les trucs, les machins, Je quitte Roland et il est assez tard parce que je ne sais plus trop ce que j'avais fait, tout ça. Dans le parking, qui y a ? Yannick. Dans le parking, avec qui il est ? Avec Mabrouk. Mabrouk était le responsable des vestiaires et il est avec les gars qui s'occupaient des terrains. Il y avait 15 mecs, 20 mecs autour de lui et il avait ramené 2 bouteilles de champagne. Et avec les mecs, ils buvaient le champagne. Parce que ces mecs-là, c'était sa famille. Parce que Yannick, il avait grandi, ce que je te racontais tout à l'heure, avec eux. Parce que le matin, quand il allait courir, quand on allait s'entraîner, les mecs, ils préparaient le terrain. Bijoux, ils préparaient le terrain. Et ces gars-là, quand ils ont préparé le terrain, à chaque fois qu'Yannick a joué, ils préparaient le terrain avec le rêve. Et peut-être qu'ils priaient, ces gars-là, pour que Yannick gagne. Quoi. C'était sa famille en même temps. Et Yannick était là, et c'était sa façon de remercier, tu vois. Mabrouk, c'était le gars qui s'occupait du linge de Yannick, de Moreton et de Porte, et il était là. Et ça, c'est quelque chose, si tu veux, qui, pour moi, est un peu l'image de la générosité d'Yannick. C'est-à-dire que Yannick, voilà, ce côté-là, ça a toujours été le côté, si tu veux, qui était le côté que beaucoup de gens ne connaissent pas, tu vois,
À quel point, quelque part, cette victoire, elle est aussi grâce à toi?
Non, je ne veux pas faire, tu sais, de la fausse modestie, si tu veux, mais honnêtement, moi, j'ai entraîné beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Et ça te permet de relativiser un peu, si tu veux, tes apports avec ces joueurs. Et je dis toujours, nous, on est... Quand on est entraîneur, on est en réalité, on est des révélateurs de potentiel. Je m'explique. C'est que les gars t'arrivent avec un potentiel qui est un potentiel dans tous les domaines. Un potentiel d'adresse, d'agilité, de qualité physique, de qualité technique, de mental, de sensibilité. Et toi, tu vas aider le joueur à développer tout ça, à se révéler. Mais t'en as qui ont pas ça. Mais tu peux pas donner. Tu sais, on disait toujours, tu peux pas faire gagner un cheval de course à un cheval de trait à Longchamp. Si le gars n'a pas vraiment des bases qui sont des bases dans tous les domaines, qui sont des bases extraordinaires, toi t'exploites, t'as beau mettre tous les engrais que tu veux, eh ben, t'arriveras pas. Donc lui, si tu veux, il avait ça en lui. Et moi, je l'ai aidé avec, et je l'oublierai jamais, si tu veux, avec tellement de gens autour, à commencer par la famille, à commencer par ces gens comme Arthur H, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui lui ont permis, si tu veux, de faire mûrir un peu toutes ces, voilà, tout ce qu'il y avait en lui. Donc toi, oui, on a organisé les choses comme il fallait le faire. Oui, je l'ai peut-être protégé comme il fallait le protéger dans ces moments-là. Oui, mais après, il faut t'effacer devant l'artiste. Tu vas apprendre à quelqu'un, si tu veux, je sais pas moi, au début, à tenir un pinceau et tout ça, le bois de la peinture. Puis après, c'est lui qui fait les tableaux. Le champion, il fait son tableau. Toi, tu es là, tu vas revisser un boulon par-ci, tu vas revisser un boulon par-là. Voilà. Mais après, franchement, honnêtement, ça serait malhonnête. Je pense que il faut être honnête quand tu entraînes et pouvoir dire oui, j'ai fait mon job, mais c'est que mon job, quoi. Et le champion, c'est lui. Et c'est lui à qui revient tout le mérite. Toi, tu as ton mérite, quelque part, en me disant j'étais un organisateur sur ce moment-là, qui a fait que on a bien bossé, il m'a fait confiance, il a été dans la direction où je voulais qu'il aille et tout le truc. Oui, tu as été. Mais ce sont, voilà, il faut, oui, c'est une pierre à l'édifice, mais ça n'est qu'une pierre à l'édifice. Tu vois?
Est-ce que le ministre de l'époque a fini par te remercier?
Les remerciements, t'en as. Ouais. Tu sais, ce qui est terrible dans ces moments-là, c'est que, vraiment, justement, tu sais, tout le monde se dit, bon, bah, tiens, il a fait gagner Yannick à Roland-Garros, eh bien, il faut qu'il le fasse gagner à Wimbledon, à l'US Open, à truc et tout ça. Après, toi, derrière, tu peux te dire, bon, ben, après, j'étais toujours son entraîneur, mais il ne l'a jamais regagné. Donc, quelque part, après, je n'ai pas réussi. Après, tu te dis, il y a une année où j'ai vraiment eu le sentiment qu'il pouvait regagner. C'est l'année où il a perdu contre Crick par abandon. Tu sais, quand il s'était vraiment foutu cette valise après le tournoi de Flushing Meadow, tu sais, sur terre battue à ce moment-là, tu sais, il rentre des États-Unis et en rentrant, il se fout sa valise sur le tendon d'Achille et le docteur, je ne sais plus quel était le docteur, qui lui file un laser pour soigner et en fait, il branche le laser, il lit le journal et puis en réalité, ça lui brûle le tendon. Et donc, il peut jouer, je ne sais plus quelle année c'était, mais il a joué la première semaine avec mal, mais il a gagné, il jouait très très bien dans cette période, il a fait une bonne préparation, ça allait, et le matin où il devait jouer Crick, il arrive à où on s'est chauffé, et il me dit, je ne peux plus poser le pied par terre, je ne peux plus courir, je ne peux plus rien faire.
Ouais, je crois.
Il dit, attends, écoute, on va voir le doc et tout le truc. Il me dit, je te jure, il me dit, je ne peux pas courir. Ma plaie s'est envenimée. Je ne peux plus poser le pied par terre. Et je dis, attends, on va dans le bois, on va essayer de trottiner et tout ça. Il me dit, ça ne sert à rien, je ne peux pas. Et donc, et là, c'était Crick. Alors, Crick, en quart de finale, c'était, franchement, ce n'est pas un joueur vraiment qui pouvait embêter Yannick sur terre, quoi. C'était peut-être sur une autre surface, tu vois, sur un dur, peut-être, mais pas sur terre. Et en demi, il rejouait Lendl.
Attends, mais tu parlais de l'US, et là, tu dis sur terre.
Non, 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 je te parlais de l'US. Je te parlais de Flushing Meadow, mais qui était un tournoi sur terre battue. C'était plus tard, ça.
D'accord, ok.
C'était plus tard. C'était trois semaines ou un mois avant. Faudrait que tu regardes bien sur le calendrier. C'était un tournoi sur terre battue à New York, qui était où se jouait avant C'est pas Flushing Meadows, c'était...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'était le tournoi se jouait à l'US Open avant.
D'accord. C'était une terre verte à l'américaine.
C'était une terre verte à l'américaine, si tu veux. Tu vois, il la gagne. Donc, il est en forme, il revient bien. Mais en même temps, il se blesse, si tu veux, à l'aéroport avec la valoche, là. Et donc, il jouait vraiment bien, le tableau était sympa, hop, pour jouer en finale. Bon, donc c'était une année où des regrets, mais en fait, si tu veux, bah, après tu te dis, ben bah, oui, qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce que truc, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Après, il y a eu d'autres facteurs. On est dans des périodes après où les choses ont évolué d'une manière qui était un petit peu plus complexe. Et voilà, on s'est jamais retrouvé quand il a, à un moment donné sur la fin, c'était en 88. Peut-être qu'il aurait fallu, si tu veux, qu'on arrête à un moment donné, qu'il prenne un autre entraîneur. Tu vois, je lui ai demandé à un moment donné. Et bah, il dit, mais non, 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 non. Et puis une année, en 88, il me dit, écoute, ça serait bien maintenant que j'essaye de me relancer avec un entraîneur américain qui était un mec super, qui s'appelait Donnie Ralston, parce qu'il est décédé maintenant, Donnie Ralston. Et c'était un type que j'aimais beaucoup en plus, si tu veux, qui était vraiment un super bonhomme. Et j'étais vraiment content, tu vois, qu'il puisse travailler avec lui. Et je me dis, j'espère que ça va marcher. Et pendant quelques mois, ça a bien marché.
Ouais.
Et après, il y a eu effectivement une baisse, si tu veux, de motivation, d'ambition, de motivation. Je crois que dans sa tête, il en avait marre du circuit. Il en avait marre de cette vie-là, tu vois, ça l'amusait plus, les choses avaient changé, voilà, ça l'amusait plus. Et donc, il s'est mis à moins bien jouer. Et la seule chose qu'il a relancée, c'est quand on a eu l'idée avec Christian Duxin de demander à Philippe Châtrier si il voulait prendre le capitanat de l'équipe de France de Coupe Davis.
Ouais.
Et là, donc... c'est Christian Duxin qui me dit, bon, ben, écoute, va lui demander à Yann s'il veut être capitaine. Donc, je me retrouve à l'US Open, là. C'est Flushing Meadows maintenant, mais avant, c'est Forest Hills, c'était. Voilà, le tournoi qui est après, c'est Forest Hills. Et donc, je suis à Flushing, il joue mal, il perd son premier tour. Et je me dis, putain, connaissant Yannick, si je ne lui demande pas maintenant, ce soir, il est dans l'avion, il retourne à Paris. Donc, je vais le voir. Et... Il est sous la douche. Alors, je suis là, je lui dis, Yann, je peux te parler? Il me dit, ouais, pourquoi? Je dis, bah, je voudrais te parler. Donc, il sort de la douche, tac, il se fout là. Je lui dis, écoute, Yann, ne le prends pas mal, mais est-ce que tu veux prendre le capitanat de l'équipe de Coupe Davis? Et là, ce con-là, il me dit, ah, tu penses que je suis plus capable de gagner un match? Je lui dis, arrête, commence pas avec ça. Je lui dis, c'est pas tu veux continuer à jouer, tout le truc, c'est ton problème, mais tu peux continuer à jouer et être capitaine de l'équipe de Coupe Davis. Non, mais tu crois que je suis plus capable de gagner un match, peu importe. Donc, je lui dis, réponds-moi. Donc, il est là, un peu plus sérieusement, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, bah, c'est fabuleux, quoi. Il me dit, ouais. Et tu crois que les gars, il serait à fond, tout le truc. Alors, il me dit, écoute, moi, je veux, mais je veux rencontrer les mecs avant et je veux que ça soit leur priorité numéro une. Je veux que ça soit leur priorité numéro une. C'est que j'y vais, mais on la gagne. Yes. Et je lui dis, écoute, Yann, tu vas leur dire. Et donc, il a réuni. Il a toujours été... La locomotive de tous, là, de Henri, de Guy, ils lui doivent tout ça, leur carrière à Yannick. Donc, il les a réunis et il leur a dit, écoutez les mecs, moi, je veux bien, mais on la gagne. Ça veut dire que les périodes qui précèdent, les périodes d'entraînement, enfin tout ce qu'il avait pu vivre et tout ce qui, ce en quoi il croyait, on les fait à fond. On les fait à fond. On se prépare à fond. C'est notre priorité. Vous voulez ou vous voulez pas. Il n'y a pas d'histoire, hein. Vous voulez pas, ciao, au revoir. Moi, je vis bien, hein, il n'y a pas de souci. Mais vous voulez gagner, vous me connaissez, tac, tac. Et ça a été fantastique. C'est ce que je te disais, la transition a été fantastique.
Ça ne te rendait pas dingue, toi, parfois, que Yannick fasse la fête quand il était sur le circuit
Ben, écoute, tu sais, y a Yannick, soit tu acceptes la personne et la personnalité qu'il est, soit tu ne peux pas travailler. Yannick, c'est quelqu'un, si tu veux, qui est blanc et noir. Il est africain, français. C'est quelqu'un, si tu veux, qui a d'un côté une logique, des envies et tout le truc. De l'autre, il a le côté africain qui est que c'est pas tout. De l'autre côté, il y a la vie. C'est pas ma vie, elle se résume pas juste à bosser, faire ça. Moi, je veux aussi avoir des moments où je veux pouvoir profiter de ma famille. Moi, je veux vivre avec des fiancés. Quand il y a des fiancés, moi, c'est ma vie. J'ai des passions, j'ai des trucs. Ça, je veux vivre avec. Moi, c'est complémentaire de ma vie. Moi, je ne suis pas. Ces choses-là, je veux pouvoir en profiter. Et je sais qu'à certains moments, il faut que j'aille à fond dans cette direction, mais on n'enlèvera jamais des moments où je veux profiter, où je veux voir mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ça. Je veux ça. Donc, ce côté-là, c'était essentiel pour lui. Et Yannick, dans ce côté, si tu veux, africain, c'est la danse et la chanson. Yannick, tu peux pas lui retirer ça. D'ailleurs, s'il est devenu chanteur après, c'était presque écrit qu'il allait devenir chanteur. C'est la musique pour Yann, c'était tout le temps. Il avait ses écouteurs, il allait, sûrement, il m'a emmené de temps en temps voir des concerts aux États-Unis, en Angleterre. On est allé voir des trucs incroyables. Et c'était extraordinaire, tu vois. Il chantait, il dansait, il danse super bien, Yann, il dansait. Il a vraiment un besoin de s'exprimer par la musique et par la danse. Et ça fait partie de sa vie. Et quand tu es en Afrique, moi, j'étais son témoin de mariage. Quand j'étais témoin de mariage, tout le monde dansait. Tout le monde, moi, je danse comme un manche à balai. Je dansais. Et parce que, voilà, il te fait danser parce que tout le monde danse, tu vois. C'est extraordinaire. Et donc, c'est ça. Si tu lui retires ça, c'est plus le même. Tu ne peux pas lui retirer ça. Tu brises quelque chose, si tu veux, qui est une vraie partie de sa vie. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est généreux de ne plus être généreux. C'est quelqu'un qui, voilà, il a eu ça en lui. Mais par contre, comme il disait au gars, c'est priorité. Moi, j'avais toujours dit à Yannick, moi, les priorités, ça sera moi. Il y a deux choses qui comptent, si tu veux. C'est un, ton programme sportif. Et je veux pas que l'un pénalise l'autre. Si ça le pénalise trop, ben je te lâche. Ça m'est arrivé, hein, 2-3 fois de lâcher Yannick. Une fois pendant 3 mois, hein, je l'ai lâché. Et puis, bon, 2-3 fois. Mais si c'est trop, ben écoute, tu vivras ta vie ou tu feras d'autres choses. Mais moi, où on fait ça? Parce que je me dis que ça peut t'amener à gagner des choses depuis le départ, hein. Donc, on fait ça et quand on le faisait, tout le monde est là pour en témoigner. Hein. Tout le monde, tu demandes aux gens qui sont entraînés avec Yannick, ils avaient du mal à le suivre. Hein. Tu parles à tous les gars qui l'ont vu dans les entraînements, tout ça. Et puis, il était d'une exigence incroyable. Après, comme il était pour lui-même, quand il demandait des efforts au mec. Donc, il y a les périodes qui sont les périodes, si tu veux, incompressibles, où on bosse comme un malade. Si toi, tu vas prendre 15 jours et que tu fais, ah oui, prenez 15 jours, il en profitait bien. Et quand je le récupérais, je ne te dis pas qu'il était au top. Hein. Je le récupérais, et il fallait bosser, si tu veux, et se donner le temps de bosser pour récupérer son niveau. mais il le savait et il mettait les bouchées doubles, tu vois. Donc il y avait ce côté-là qui était effectivement, si tu veux, que n'ont pas d'autres. Pour qui, peut-être qu'il serait aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, avec les sommes faramineuses qui existent, peut-être est-ce qu'il aurait changé ? Je ne crois pas, parce que Yannick, si tu veux, bien sûr, il aime gagner de l'argent et tout le truc, mais ça n'a pas été son moteur, comme ça pouvait être le moteur d'autres, même à l'époque. Tu vois, ce n'était pas son moteur premier. Son moteur premier, c'était, il voulait s'affirmer, il avait à défendre sa couleur, le fait qu'il soit différent, si tu veux, que son papa soit black, que lui soit l'un et l'autre. Il avait le côté aussi de l'histoire, ce que je te disais au début, c'est-à-dire gagner un tournoi du Grand Chelem, comme gagner la Coupe Davis. C'est pour ça qu'il défend la Coupe Davis, l'ancienne Coupe Davis, comme toujours, parce qu'il y a le côté historique derrière, qui représentait tout, quoi. Pour lui, oui, la Coupe Davis et Roland-Garros, c'était ses raisons, voilà, de jouer au tennis, tu vois, comme bien d'autres. Donc, ça, c'était la priorité. Je te dis pas que ça m'a pas gêné, à certains moments, et que j'ai pas eu quelques bras de fer avec lui, tu vois. Mais, quand il fallait y aller, il fallait y aller. Et là, il avait plus de limites. Le personnage était assez complexe parce qu'il était, en plus, si tu veux, il a un côté, Yannick, où il est très intelligent, Yannick. Tu lui dis pas 36 fois la même chose à Yannick. Hein. Tu lui dis deux fois, il dit, mais tu me l'as déjà dit. Tu vois, donc, les choses vont vite, tu vois, il comprend vite. Des fois, je commence ma phrase, il sait ce qu'il y a à la fin, tu vois. Donc, c'est quelqu'un, c'est pour ça que c'est intéressant, si tu veux. T'as des discussions qui sont sympas avec lui, tu vois. Ça tourne pas autour de trois trucs, quoi. C'est pas que les bagnoles et mais bon, c'est sympa, si tu veux, sur la vie, sur des tas de choses qui l'ont toujours intéressé, quoi. Mais il a eu des vies, et sa famille compte énormément pour lui, si tu veux. Son clan, tu sais, maintenant il est chef de son clan à Yaoundé, c'est lui le responsable depuis que son papa est décédé. Donc il a, voilà, ce côté famille compte énormément. Donc ses enfants, c'est ça, Yannick, c'est ce personnage.
Alors, on arrive à 1h15 et on va essayer de ne pas dépasser 2h, parce que déjà c'est énorme.
D'accord.
Tu as été donc deux questions qui suivent, et ensuite j'ai des questions de fin qui sont un peu communes à toutes les interviews. Tu as été 21 ans entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis. En deux mots à chaque fois, mais alors vraiment deux mots, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris en termes de jeu, d'approche du tennis, de psychologie autour de ce sport en règle générale avec les joueurs suivants? On va commencer avec Henri Lecomte. Mais vraiment à chaque fois, essaye de me dire ce que tu as appris au contact de ces gars-là en deux mots.
Henri, j'ai découvert un personnage, si tu veux, qui était hyper talentueux, probablement le plus talentueux de tous les joueurs, si tu veux, que j'ai eu la chance de rencontrer en France, si tu veux, et puis je dirais même à l'étranger. Bon, il y en a quelques-uns qui ont eu le talent qu'a eu Henri, mais au niveau du talent, je parle là du talent gestuel, les facilités, l'adresse, les facilités gestuelles, tout partait comme chez Federer pratiquement. Il y avait une espèce de fluidité dans ses mouvements qui était incroyable. Une personnalité très très complexe et très influençable qui a probablement nui à sa carrière.
Forget,
c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de, je dirais, de difficultés au début de sa carrière, qui n'avait pas bien compris ce qu'était le devenir un professionnel. Il l'a compris sur le tard. Il en a bien profité après, mais il ne l'a pas assez bien compris. Il s'est laissé embarquer, je dirais, par peut-être la facilité qu'il avait lui aussi au début. C'était facile pour lui. Il avait appris des bases par son père qui était prof de tennis. C'était très facile, le tennis était facile. Je pense même qu'au départ, je ne suis pas persuadé qu'il ait vraiment aimé le tennis suffisamment. Mais comme ça allait bien, ben il s'est dit, ben tiens, je vais faire une carrière de tennis. De toute façon, ça fera plaisir à mon père, à ma mère et tout ça. Mais ce n'était pas forcément son truc au départ. Ça l'est devenu. C'est devenu de plus important par la suite. Et quand c'est devenu de plus en plus important, Yannick lui a apporté énormément. Énormément.
Santoro?
À Santoro, c'est... Moi, j'adore voir jouer Fabrice. J'adore voir jouer Fabrice. Je trouve que dans le tennis, on manque de joueurs qui sont atypiques comme ça, avec cette intelligence de jeu. Il a utilisé ses qualités techniques, mais à 100%. Son coup d'œil, sa vista. Maintenant, c'est quelqu'un qui, probablement, a perdu aussi un peu de temps parce qu'il aurait probablement pu être encore plus fort en travaillant un peu plus son physique, je pense. Parce que c'est quelqu'un qui avait un tennis qui était loin d'être économique, qui était un tennis excessivement exigeant. Et je pense qu'il aurait probablement dû travailler son physique et en tout cas tout le côté cardio, ça l'aurait probablement aidé à être meilleur. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment, c'est un peu la, je dirais, un tacticien hors pair, quoi.
Olivier Delettre.
Olivier, c'est un joueur, je dirais, très très complexe sur le plan de la personnalité. Et je crois, en tout cas moi personnellement, j'ai beaucoup beaucoup de difficultés à le comprendre et à lui apporter ce que j'aurais aimé lui apporter, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à le comprendre. Et c'est quelqu'un qui était très 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 fermé, qui a du mal à se libérer, du mal à s'ouvrir, et que j'ai toujours senti un petit peu mal dans sa peau. Un formidable joueur, hein, très talentueux aussi, mais un peu mal dans sa peau. Et je dirais qu'il a jamais pu vraiment être avoir. Peut-être est-ce qu'il a manqué un peu d'estime de lui-même. Je pense.
Voilà. Ouais, je trouve c'est intéressant que tu arrives à nous dire ce que tu as réussi à leur rapporter à ces joueurs-là. À chaque fois aussi. Thierry Tulane.
Ah, Thierry, un bosseur incroyable. Thierry, c'était un bosseur incroyable. Quelqu'un qui est tombé dans un système de jeu qui était le système de jeu qui lui convenait, qui lui a apporté beaucoup. C'était vraiment jouer un peu comme jouait Villas. Un gros lifter des deux côtés, cavaler comme un lapin, bon sens tactique, de faire rater l'autre, travailler, il a travaillé énormément aussi, beaucoup, beaucoup son physique. C'est quelqu'un qui a été peut-être au bout de son potentiel physique et je pense qu'il a cette notion qui est ancrée en lui, cette notion de « il faut bosser pour réussir ». Un bon, très très bon entraîneur maintenant et c'est quelqu'un qui a été quand même top 10 et c'était pas forcément écrit au départ et je crois que c'est à force de travail, de confiance en lui, je crois qu'il a travaillé très intelligemment avec pas mal d'entraîneurs, hein. Moi je me mets un peu, mais je travaillais un peu avec lui, voilà, mais je crois qu'il a surtout ses qualités personnelles qui lui ont permis de devenir celui qu'il est devenu, quoi. Son père aussi. Son père a été formidable pour lui.
Qu'est-ce que tu as pu apporter à Pioline?
Pas grand-chose, hein. J'ai très peu. Pioline, je l'ai récupéré. Enfin, j'ai récupéré quelques fois en Coupe Davis. J'ai eu des difficultés au départ avec lui et avec surtout son entraîneur, hein, qui était son entraîneur de l'époque, qui s'appelait Dumont, et qui lui était arrivé comme entraîneur avec des notions de psychologie. Et puis des notions de où il pensait, si tu veux, que c'était grâce à lui que Pioline allait devenir force. C'était ça, c'est-à-dire c'était vraiment le côté si je suis pas là, il n'arrivera pas à devenir bon. C'est-à-dire vraiment une sorte de gourou, si tu veux. Et ça, moi, je supporte pas ça. Je suis à l'opposé de ça. Oui, au psychologue, si tu veux, mais je pense toujours que notre travail, quand on entraîne, c'est justement de rendre le joueur responsable de lui-même, tu vois, et de pas être dépendant de l'entraîneur. Il faut pas qu'il soit complètement dépendant de l'entraîneur. Il faut lui amener à être justement, à avoir confiance en lui, à être cette autonomie qu'il est essentiel de développer. Et lui, il a agi en disant, si c'est pas moi, tu seras perdu. Ça, je détestais ça. Et à un moment donné, parce que j'avais essayé de créer un groupe, si tu veux, pour discuter avec ceux qui travaillaient avec les meilleurs Français. Et dans ce groupe-là, il a même pas daigné participer. C'est-à-dire qu'il voulait bien prendre des autres, mais il voulait rien dire de ce que lui faisait et autres. C'était secret. Donc lui, c'était chasse gardée. Lui, il avait de l'or. Il disait il avait de l'or. Et mais il voulait rien dire de ce qu'il faisait. Ça m'a gêné. Et quand Pioline s'est libéré de Dumont et a commencé à fonctionner avec Pierre Chéret, il a commencé à s'ouvrir. Et quand je l'ai eu, moi, dans les équipes, alors qu'au début, il a essayé une fois où il y avait Georges Degnaud et tout ça, ça s'est mal passé. Quand je l'ai eu en équipe de France, par la suite, il a commencé à adhérer grâce à Pierre et tout le truc, à ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, c'est un pote. Aujourd'hui, c'est un super pote.
Arnaud Clément ?
Ah là là, c'est Arnaud, j'adore. Arnaud, j'adore.
Qu'est-ce que tu lui apportes, je pense ?
Ah, je sais pas ce que je lui ai apporté. Il faudrait lui demander à lui, mais lui, en tout cas, il m'a plu dans tout ce qu'il faisait. Et puis, je crois que c'est quelqu'un qui est, il est intelligent, il est bon. Il a vraiment un bon fond. C'est un travailleur énorme, un peu comme Paul-Henri Mathieu. Paul-Henri, c'est aussi un travailleur exceptionnel. Mais c'est quelqu'un qui a un super raisonnement, qui est d'une exigence avec lui-même sans limite, pourrait travailler non-stop. Les quelques fois où j'ai dû hausser le ton, c'est parce qu'il en faisait trop. Je me souviens une fois dans une rencontre de Coupe Davis, il n'était pas content de son service et il était là et il voulait faire des services et il faisait des services. Je lui dis à un moment donné, écoute, demain tu vas pas pouvoir lever le bras, donc stop, on arrête. Non, j'ai envie de continuer, regarde, je sers mal et tout le truc. Je dis, demain tu vas pas pouvoir servir, tu vas pas pouvoir lever le bras, tout le truc. Donc à un moment donné, je lui dis, écoute, maintenant je vais rester poli, mais on arrête. Donc il a pris ses affaires, il s'est barré, il m'en a voulu. Donc j'ai reparlé avec lui le soir, tu vois, et je lui ai dit, écoute, mais il peut à force de son travail, mais quand je dis il peut pas se rendre malade, mais se blesser, tellement il est exigeant avec lui-même. Mais un côté hyper sympa, très très bon raisonnement, très bonne vision du jeu, très bon sens tactique et formidable personnalité. Moi, c'est quelqu'un, vraiment, j'adore ce bonhomme-là. Je trouve vraiment super.
Seb Grosjean ?
Seb, moi, j'ai passé moins de temps avec lui parce qu'il habitait aux États-Unis. Je l'ai vu au départ. C'est plus Eric Doblicker qui s'est occupé de lui. Quand je l'ai eu en équipe, c'est quelqu'un qui… Il n'avait pas un gros physique et il avait beaucoup, beaucoup de talent gestuel, beaucoup de facilité, beaucoup d'adresse, avec un coup droit dévastateur, des coups qui faisaient très, très, très mal, un sens du jeu. J'adorais le voir jouer. Il jouait, c'était à regarder, c'était incroyable. Il avait un tennis qui était très, très, très complet. Mais je pense que sur le plan physique, il aurait pu faire mieux et aller encore plus loin que ce qu'il a fait s'il avait travaillé sur le plan physique, s'il avait été peut-être plus loin dans ses efforts physiques, lui. Mais une personne qui connaît le tennis à fond, très, très, très bien.
Polo, tu l'as dit, donc gros, gros bosseur.
Ouais, Polo, j'ai passé plus de temps avec lui. En plus, j'ai eu une chance absolument incroyable. Je l'ai connu très jeune, Polo. Donc, j'avais un bon feeling avec lui. Je l'ai entraîné aussi quand j'ai pris la direction sportive de chez Lagardère. Je fais plusieurs tournois aussi avec lui. Il avait gagné Gstaad là quand j'étais avec lui. Et j'étais super super content encore de voir Polo gagner un tournoi comme ça. C'était super. Et un bosseur un peu comme Arnaud qui a pas de limite dans son engagement. Mais pourquoi j'ai eu un intérêt particulier aussi, c'est que quand on était chez Lagardère, on avait passé un deal avec Mats Wilander. Et donc, Wilander s'occupait de Polo sur tous les tournois du Grand Chelem et sur les périodes qu'il souhaitait faire de préparation, bien sûr. Et puis, s'il voulait venir quand on était chez Lagardère, il était le bienvenu. Et le reste de l'année, c'était moi qui m'occupais de Polo. Et pendant cette période, on a eu des contacts avec Wilander et j'ai eu des contacts avec Wilander qui est depuis l'époque de Yannick, c'est devenu un ami. C'est quelqu'un, vraiment, Wilander, pour moi, qui est une sorte de personnage, mais exceptionnel d'intelligence, de sens tactique, de générosité, tout ça. Il m'a dit des choses sur le jeu, sur lui-même, sur la rencontre qu'il a fait avec Yannick, enfin sur le match qu'il a fait avec Yannick, tout ça, qui, c'est sublime. Et quand on a travaillé, on parlait, on échangeait par rapport à Polo. Et je le voyais, lui quand même, c'est 11 finales de Grand Chelem et 7 victoires. C'est ouais, pas n'importe monsieur. Qui, Vilander. C'est monsieur Vilander, c'est incroyable. Et donc, respect tous les jours. Et moi, j'écoutais les oreilles comme ça. Et donc, quand il me parlait de la façon dont il s'est formé aussi en équipe avec ses copains, Jarid, un peu en équipe, ça me faisait penser à ce que Yannick avait fait, quoi, avec des petits groupes comme ça. Et c'était assez formidable. Et à son contact, j'ai appris beaucoup de choses. Et je le voyais s'investir. Voilà, l'âge qu'il a, quand il était, qu'il jouait avec Mats, il servait, il s'était mis 2 mètres à l'intérieur du court pour que Polo retourne les services, où il avait montré un peu des actions tactiques. On avait fait à la vidéo des ralentis sur Polo dans telle ou telle action, et il était, mais à 100%, quand il était au bord du court, quand Polo jouait, il était à fond. Monsieur Vilander, quoi, c'est incroyable. Et voilà. Et Polo, je crois, il a profité de ça, mais je pense que à un moment donné, il a souhaité arrêter avec Vilander, en me disant j'ai tellement de respect pour lui que quand il est là, je suis un peu trop crispé, je suis trop, voilà, je me sens pas à l'aise. Puis voilà, donc ça a été dommage qu'il ait pas pu en profiter comme. Moi, j'avais pensé, ou on avait pu penser, que voilà, qu'il fallait en profiter.
Di Pasquale.
Ah, top, un personnage que j'adore aussi. Arnaud, c'est un gars très intelligent que j'aime beaucoup, qui malheureusement a été blessé et qui aurait fait une carrière bien meilleure s'il n'avait pas été blessé, je trouve. C'est quelqu'un qui a très intelligent aussi et une vision des choses. D'abord une vision du jeu formidable, hein. Il analyse très très bien le jeu, une vision des choses. Moi, j'avais mis beaucoup d'espoir en tant que DTN, hein, quand il a pris ma succession, j'espérais vraiment que voilà, et malheureusement il est tombé à un moment où il s'est heurté à l'arrivée d'un autre DTN qui s'appelle Monsieur Guidicelli, et ça l'a empêché de fonctionner comme il aurait fallu qu'il fonctionne, avec toute la liberté que on doit avoir quand on est vraiment DTN, quand on est spécialiste, et puis que quelqu'un vient vous est aux ordres, quoi. Voilà. Donc il a préféré partir.
Ouais. Escudé.
Ah, c'est super, Nicolas. Malheureusement, je me suis occupé de lui comme j'aurais voulu m'occuper de lui que sur la fin, et notamment quand après son opération. J'espérais tellement, parce que aussi voilà quelqu'un qui a des qualités d'esprit, d'équipe. C'était un équipier formidable, hein. Là, c'était aussi, quand je parle de tous ces gars-là, ce sont des gars qui en équipe ont été tous formidables, quoi. Et Escudé, incroyable. J'étais pas à Sydney quand il a gagné, enfin, quand ils ont gagné, c'était lui le match décisif, quand ils ont gagné cette finale de Coupe Davis chez les Australiens, et ça vraiment c'était un exploit extraordinaire. Mais en même temps, ça m'étonne pas de lui, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très très exigeant avec lui-même, très très, je veux dire, il va très loin dans ses efforts, et c'est quelqu'un qui, comment dire, c'est quelqu'un qui a toujours été, qui a toujours mis l'équipe avant tout. Et quand cette équipe a gagné avec Clément, Grosjean, Escudé, vraiment, j'étais tellement content, parce que c'est tous des gars qui ont cet état d'esprit qu'il y avait chez Lecomte, Forget, Yannick, ouais. Guy, bien sûr. Cette solidarité, cet investissement pour vraiment aller à la limite de leur force, et mettre vraiment tous leurs problèmes de côté pour se retrouver ensemble. c'est voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que j'aime dans la Coupe Davis. Hein. C'est moi j'ai eu ce bonheur de vivre avec des gens comme ça qui m'ont tellement apporté qu'aujourd'hui j'en arrive à me dire que vraiment ce sont ces facteurs-là qui ont été les facteurs déterminants. Ce sont des gens qui ont eu ces qualités-là, ces qualités d'état d'esprit qui font en équipe, qui font réussir. Mais ce dont je suis persuadé aussi, c'est que peut-être que aujourd'hui, certains des gars qui arrivent, au lieu de s'isoler avec un coach, auraient vraiment tout à gagner à de l'expérience des anciens. En essayant de travailler avec leur coach individuel, mais sans jalousie ou sans qu'il y ait d'égo mal placé, mais travailler ensemble sur le joueur. Et qu'il y a des gars qui ont beaucoup de choses à apporter, beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai Yannick, il a pris le pendant des années, il était frustré parce qu'il se disait, mais je vois les gars jouer, mais il n'y en a pas un qui va me passer un petit coup de fil. Il me dit, mais moi, je ne vais pas les appeler, ce n'est pas à moi de les appeler pour leur dire, je peux t'apporter, ils doivent, c'est le truc. Et même après, en Coupe Davis, il est là en Coupe Davis avec eux, ça se passe bien, ils gagnent la Coupe Davis, ils font une finale, une victoire, tout le truc. Il se dit derrière, bah, peut-être que. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs et les jeunes joueurs qui arrivent, il se passe quelque chose qui ne s'est pas passé avant et qui nous a peut-être permis d'avoir toute cette génération de joueurs qui étaient des top 10 tous, voire des top 5 pour certains. Il y a eu cette espèce d'équipe qui s'est formée où les uns s'apportaient des choses et où les entraîneurs ne se tiraient pas dans les pattes. On a travaillé, moi j'ai travaillé avec des gens, avec des entraîneurs, avec des gars comme Eric Deblicker, avec des gens comme Jean-Claude Massias, avec des gens comme Jean-Paul Lhote au début et tout le truc. On travaillait ensemble. Et même quand j'étais sur le circuit, je travaillais et que des gars, ils savaient qu'il y a des gars comme Yann Thierry, avec des gars comme Villas, mais des gars comme, comment il s'appelle Arthur Hache, ces gars-là qui ont apporté, qui apportent des choses. Et faire ce petit clan à deux, Amélie Mauresmo, super Amélie, qu'elle se soit rapprochée de Yannick, qu'elle se soit rapprochée d'autres personnes comme ça, personnalités, super. Et je me dis, mais on a des gens en France qui ont eu des carrières incroyables et qui sont super, tous ces champions-là dont je viens de parler, mais Guy, personne n'est allé le voir pour lui demander, Guy, tu peux m'aider, me coacher, me dire tout le truc. Arnaud a essayé de le faire un peu. Puis après, Arnaud, bah oui, on lui a interdit, bien sûr. Ah oui, c'est incroyable qu'on ne puisse pas avoir dans ce monde-là dépassé un petit peu les égos des uns et des autres. Mais c'est ce qui tue le tennis international, qu'on ne puisse pas se rassembler au bénéfice du tennis et au bénéfice du jeu. Et puis pour nous, au bénéfice de la progression des joueurs, c'est incroyable.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette deuxième partie avec Patrice. Tu peux vraiment nous rendre service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis au podcast directement sur leur téléphone parce que le bouche à oreille fonctionne à merveille, crois-moi. Pense à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast, c'est la plateforme numéro 1 pour nous aider à faire connaître la chaîne et avoir des invités qui nous font rêver. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Légende lorsque tu découvres un nouvel épisode, on te repostera illico. Avec Johan, le fondateur, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 €, soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Enfin, pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, boutique.tennislegende.fr. T'as également le lien dans la description juste en dessous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve mardi prochain. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.